Chapitre 71. Endormi, Gabriel sursauta lorsque le train d'atterrissage de l'Airbus A320 frappa le tarmac de l'aéroport Jean-Paul II de Cracovie. Tout juste après le décollage de l'île Les Quins, il s'était de nouveau assoupi et n'avait pas vu passer les 2 heures de vol. À moitié dans le coltard, il saisit son sac de sport dans le coffre au-dessus de sa tête, ralluma vite son téléphone portable. Pas d'appel. Un froid cinglant le cueillit quand on emmena les passagers en bus de la piste au hall de l'aéroport. Il devait faire à peine plus de zéro. Gabriel se rendit compte à quel point tout allait incroyablement plus vite en 2020. L'acheminement des voyageurs, les contrôles. On l'observa simplement avec un peu plus d'insistance que les autres à cause de l'état de son visage. Il échangea ses euros contre des zlotys, récupéra ensuite le plus petit modèle de voiture de location sur le parking d'Avis. On lui suggéra l'option Viatol, un forfait qui lui éviterait de payer à chaque péage. Il alluma le GPS et entra à l'adresse du chalet de Chmielnik, Nachichne. Pas vraiment une adresse, mais un nom de village. D'après la veuve, l'habitation se cachait à environ 6 km après la sortie du bourg, le long de la DW-896. À ce moment-là, il verrait un chemin sur la droite, enfoncé dans la forêt et permettant d'atteindre sa destination. Moins de 300 km et environ 4 heures de route, d'après son appareil. Il y serait aux alentours de minuit. Son plan était simple. Il se dégoterait un endroit où dormir une fois sur place, puis irait jeter un œil au chalet tôt le lendemain, avant de partir pour Bialystok et son université de médecine. Tandis qu'il s'engageait sur l'autoroute A4, Gabriel n'arrivait toujours pas à croire que son intuition l'avait mené jusqu'en Pologne, alors que le matin même, il marchait encore au bord d'une plage du nord de la France. Avant l'embarquement, il avait fait une dernière recherche sur la région de Bieskadi et cette histoire de chasse aux loups dont Arvel Gaessa semblait friand. Ce genre de traque existait réellement et à grande échelle. La partie des Carpates polonaises vers laquelle il s'orientait était réputée pour ses nombreuses agences de chasse qui prenaient l'ensemble du séjour en charge. Pour quelques milliers d'euros, de riches étrangers adeptes de la gâchette venaient s'offrir le grand frisson. Une escapade hors norme, avec l'autorisation du gouvernement de rapporter la peau et le crâne de l'animal en guise de trophée. Un tourisme sanglant qui permettait à cette région, une des plus pauvres du pays, de survivre. Arvel Gaessa était un de ces prédateurs. Au milieu des monts et des forêts glacées, il avait, comme ces animaux qu'il piégeait, sa propre taverne. Un loup parmi les loups. L'autoroute creusait l'interminable campagne, les phares de la Skoda plongeaient dans la nuit. Plus il avança vers l'est, plus le trafic se raréfia. Il dépassa des poids lourds aux citernes luisantes et aux plaques ukrainiennes ou allemandes, quitta la trois voies au niveau de Poustinia et poursuivit sur des nationales non éclairées. Quand il se prit de plein fouet son premier nid de poule et qu'il pensa avoir explosé son essieu avant, il redoubla de vigilance. Autour, le paysage semblait s'étirer, se comprimer, entre plaines rases et forêts. Les étoiles perçaient, le quart de lune nimbait les environs d'une subtile couche d'ambre. Sur le tableau de bord, le thermomètre affichait une température de 1 degré. Elle descendit plus tard à moins 1, quand la voiture attaqua les reliefs sous les voûtes d'arbres qu'il imaginait comme des mains se resserrant sur la tôle. Ici, les Carpates n'étaient pas des géants de granit comme il le croyait, mais un territoire de vallées vierges et de monts boisés, étendus à l'infini, à l'assaut des frontières ukrainiennes et slovaques. À partir de cet instant, il ne croisa plus un seul véhicule jusqu'à Nachichne. Au milieu de l'obscurité, il distingua une poignée de maisons en rondins ou en parpaings, un camp de scouts désert, une vieille église en bois. Plus loin, il aperçut un panneau en forme de tête de loup, avec un lit et un fléchage indiquant de prendre sur la gauche, Wolf Inn, l'auberge du loup. Tout un programme. Gabriel se gara à proximité d'un gros 4x4 flambant neuf. Une fois à l'accueil, il eut la sensation d'être le gibier qu'on observe. Depuis le bar, dans une arrière-salle, un groupe d'hommes équipés de vestes kaki et de pantalons de treillis tournèrent la tête dans sa direction, bière en main. Si Gabriel cherchait une atmosphère plus poisseuse que l'hôtel de la falaise, il l'avait trouvé. Il songea aux ambiances à la Dracula de Bram Stoker. Tout, dans la décoration, les affichages, ramenait à la chasse et au mythe de la créature. Un colossal loup empaillé trônait même sur un socle en bois. Ainsi exposé, les babines retroussées, le museau plissé, il figurait la bête dangereuse à abattre. Le réceptionniste l'aborda dans un anglais approximatif. Gabriel ne comprenait rien à son charabia et abrégea. Le tarif pour une nuit était exorbitant, l'équivalent de plus de 150 euros, mais il régla sans rien dire. Il récupéra une clé, monta à l'étage et prit possession de sa chambre. Contre toute attente, elle valait son prix. Lit king size, large baignoire à remous, matériaux précieux, et le détail qui tue, des empreintes de pas de loup incrustées dans le béton ciré du sol. Bientôt 1h du matin, toujours aucune nouvelle de Paul. La piste de la photo l'avait-elle mené dans une impasse? Peut-être n'avait-il pas trouvé la marque de naissance dans l'exposition d'Abergel. Ce dont il était certain, c'est que son ex-collègue sauterait au plafond s'il venait à apprendre où il se trouvait en ce moment même. Gabriel fit une rapide toilette, ôta son jean mais garda en main le briquet à tête de loup, pioché dans une de ses poches. Une tête de loup. Quelle étrange coïncidence. Il s'enfouit sous les draps encore frais et fit jaillir la flamme du briquet. Elle happa l'oxygène dans un élégant feulement, puis brilla au cœur des ténèbres. Il la souffla avec l'intime conviction que son épopée dans ce pays étranger n'était pas vaine.